Mes amis, bonjour. Je vais quand même garder le micro parce que c'est enregistré, hein, la séance. Donc, pour garder éternellement le souvenir de notre réunion de ce matin. Alors, nous sommes aujourd'hui au troisième épisode de l'histoire de notre orchestre philharmonique de Monte-Carlo. Comme vous pouvez le voir ici, j'avais l'intention, et j'ai toujours l'intention d'ailleurs, de vous parler plutôt des années 1880-1890 et de la venue parmi le public d'un auditeur un petit peu particulier, qui est le philosophe Friedrich Nietzsche. Mais auparavant, comme vous le savez, j'ai demandé à un certain nombre de gens s'ils avaient des témoignages de l'histoire de l'orchestre. Et nous avons ici Madame Biancheri et Madame Lechner, qui sont les descendantes d'un musicien de cet orchestre au XIXe siècle, hein, un musicien dont vous pourrez voir la photo ici, parmi ces photos qui ont été fournies par la SBM. Et donc, c'est un témoignage extrêmement précieux. Alors voilà, il est là, ben, il est ici, voilà. Hein. Ça, c'est le beau-frère. Alors attendez, voilà. Ah, il est là, lui, il est là. Ce beau moustachu, hein, voilà, ouais. Et il a des moustaches à la Nietzsche, hein, voilà. Et il est original. Alors voilà. Donc, je vais laisser la parole tout d'abord à Madame Biancheri, qui va nous parler de son aïeul et des documents qu'elle a amenés. Alors, je crois que vous avez un micro. Hein, on va vous donner un micro. Et donc, je vais vous interroger. Donc,
Bonjour.
on sera un petit peu postérieur. On sera un petit peu postérieur à la période 80-90, dont je vous parlerai par la suite. D'accord. Voilà. Alors, si on va vous brancher le micro. Voilà.
Allô? Oui.
Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, donc, qui était
Alors, je me permets
votre aïeul?
de saluer
Oui.
l'Assemblée, de remercier Madame la Présidente
Oui.
pour cette opportunité qui nous est très chère parce que mon papa était très attaché à l'histoire de la principauté. Et puis, il a été aussi très fier de compter parmi les sujets monégasques grâce à Jules Lechner, qui a été naturalisé en 1890. Donc, c'est le premier.
Parce que lui était allemand.
Il était allemand.
Voilà.
Et comme il avait quitté, je pense, l'Allemagne très jeune, à 20 ans, et qu'il n'avait pas dû remplir ses obligations militaires, il est devenu apatride. Et il est resté apatride jusqu'en 1890, où il a eu l'honneur d'être naturalisé par le prince Albert Ier.
Oui. Alors, donc, musicien, il était timbalier, il était percussionniste, il jouait d'autres instruments aussi,
Oui,
hein,
comme tous les musiciens, je pense.
comme tous les musiciens à cette époque-là, surtout
Oui.
qui étaient très, très polyvalents, mais il était le timbalier. Il avait également un rôle particulier, puisqu'on va voir, je crois, des lettres qu'il a écrites, si on peut voir.
Alors, il
Oui,
était
oui.
donc il arrivait d'Allemagne. Il avait fait un
Oui.
petit passage 2 ans à Lucerne,
Oui.
en Suisse, et il avait été recruté par François Blanc.
Oui, oui.
Pour venir
François Blanc,
créer
qui était le créateur du casino de Monte-Carlo,
à l'origine, oui.
et que Charles III avait fait venir d'Allemagne.
Oui.
Hein, ça fait partie peut-être d'une connaissance
Parce
d'Allemagne.
qu'il exerçait, il avait déjà des casinos
Voilà.
à Boudenbourg.
Oui.
Et donc, il était timbalier. Donc, il avait plusieurs missions, parce qu'en fait, il était polyvalent.
Oui.
Et il a été chargé de la fanfare de la garde d'honneur du prince. Et on avait même. Il dit dans une de ses lettres qu'il avait été félicité par le prince Albert pour les progrès rapides
Ouais.
de sa fanfare.
Ouais. C'est
Il est.
très important, la fanfare des
Oui,
la fanfare
mais.
du prince. Hein.
Qui était créé, tout se créait à ce moment-là.
Oui.
Et donc, il avait aussi créé le sport vélocipédique monégasque, donc qui est l'ancêtre de l'Automobile Club de Monaco,
Oui.
puisqu'il n'y avait pas de voiture, donc commencer à
Oui,
vélo.
c'est vrai, vous m'avez envoyé des photos dans lesquelles je vois des vélos. Alors, donc,
Voilà.
il était également.
Oui, le
Ah,
chef
il est
de
là,
cette
voilà.
troupe-là. Et les fanfares étaient très communes à l'école à l'époque, dans ces périodes
Oui,
militaires de guerre,
oui,
il y
oui.
avait des fanfares. Donc, apparemment, l'habitude était que les fanfares accompagnaient les événements.
Oui.
Et dans certains courriers, dans certains extraits du journal de Monaco, on entend qu'à une certaine occasion, la fanfare vélocipédique de Monaco va accueillir la fanfare de Vintimille et puis ils reviennent
Ouais.
en défilé. Donc, et ce que nous racontait mon père, c'est qu'il avait transformé les trompettes, si c'est des trompettes, excusez-moi, ouais. Les modifier pour pouvoir tenir le vélo d'une main.
Ah oui, d'accord.
Et jouer de la trompette de l'autre.
Ah oui.
Donc il fallait.
On n'a pas de photo de ça.
Non. Ouais, non, ça, on n'a pas de photo. C'était la transmission orale.
Oui, c'est-à-dire, il fallait soit transformer la trompette, soit transformer le vélo.
Voilà. Et comme ils défilaient en jouant trompette, de la trompette, voilà. Et mais je pense qu'à l'époque, ils étaient tous, ils savaient tout faire, tout et puis ils créaient tout, ils inventaient tout. C'est ça qui est magnifique. Ensuite, il avait aussi créé la chorale. Qui s'appelait L'Avenir,
oui.
Et qui chantait dans de nombreuses manifestations, quand arrivait le prince, quand arrivait... voilà. Il donnait aussi des cours d'allemand et de musique au collège de Monaco, à Monacoville. Oui. Parce qu'en fait, on s'est aperçu dans ses courriers que les salaires n'étaient pas extraordinaires. Donc, il avait besoin, il disait que les cours lui permettaient de...
Bien sûr, oui.
D'agrandir. Et puis, c'était du travail saisonnier.
Oui.
Il ne travaillait pas forcément. Il avait des. Puis, oui.
Il travaillait pendant l'hiver, essentiellement. Hein. La saison d'été n'existait pas ou très peu. Alors là, on a une lettre. Voilà.
Il fallait. Ça fait rien. C'est pas dans l'ordre. C'est une. Voilà. 89.
Voilà.
Donc voilà. Là, il écrit à Monsieur le comte. Alors Monsieur le comte, je ne sais pas qui ça peut être, parce que il. Je me demande si ce n'est pas l'aide de camp du prince, parce qu'il parle.
Peut-être.
Il y avait le comte Furmaster, un truc comme ça. Hein, ouais. Je ne suis pas très sûre. Et donc, il demandait des congés pendant l'été, parce qu'il avait une santé fragile. Donc, il avait besoin, seul médecin lui conseillait d'aller peut-être à la montagne. Et il demandait à être bien repris à son retour
de congé.
De congé. Ouais. Et une deuxième page.
Parce qu'il n'y avait pas l'assurance de l'emploi, bien entendu.
Non, il n'y a pas la deuxième page. Alors, et dans cette lettre-là, il demandait aussi... il y a peut-être une page 2, non ?
Non.
A et B ?
Non, c'est la page 1, mais c'est bon. Mais dites-nous ce qu'il y a dans la page 2.
La suite, il proposait aussi, parce qu'il s'est aperçu qu'il y avait des différences de traitement, bien sûr, entre les divers métiers. Il disait qu'il ne serait pas contre... peut-être pour remettre la première page, la page de présentation, de devenir croupier. Parce que les croupiers ne travaillaient que 8 mois dans l'année.
Oui.
Et en plus, donc la suite, c'est un peu plus, il y a une deuxième page. Non, alors c'était une double, un Word avec deux pages, il n'a peut-être pris qu'une page.
Bon, ça ne fait rien.
Ça fait rien.
Commentez
là. Il disait que... il pourrait très bien être formé parce que son beau-père, qui s'appelait Monsieur Berce, qui était sur une autre photo, était croupier au 30-40. Il est devenu après directeur du 30-40. Et il pouvait facilement lui apprendre le maniement des jetons et des cartes. Donc, il était ouvert.
Ouais.
Voilà. Et il se plaignait, comme vous en aviez parlé la dernière fois, qu'il y avait énormément de services.
Oui.
Il jouait le matin, il jouait l'après-midi,
oui.
Et c'était quand même difficile. Et il disait que le timbalier dans toutes les formations devait être là.
Et oui.
Donc il n'en pouvait plus.
Oui, oui,
donc il demandait un peu.
Oui, je rappelle,
il
y avait deux services par jour. Il y avait un concert l'après-midi et un concert le soir.
Voilà.
Parce que le principe de François Blanc, lorsqu'il a créé cet orchestre du casino, c'était de distraire les gens qui allaient jouer au jeu. Parce que le principe de François Blanc, ce n'était pas de faire de la culture. Hein, c'est d'avoir des clients pour les jeux du casino. Alors les gens allaient jouer, puis ils venaient se reposer en écoutant un petit peu de musique. Puis à l'entracte du concert, ils allaient à nouveau jouer l'après-midi, puis ils revenaient le soir. Voilà. Et l'orchestre avait effectivement deux services, l'après-midi et le soir. Ils jouaient deux fois par jour. Hein, ce qui sidérerait nos musiciens aujourd'hui, hein, qui ne jouent qu'une fois par semaine. Oui. Oui, très bien. Oui.
Celle-ci adressée à M. le comte, mais de nombreuses lettres étaient plutôt adressées au chef d'orchestre.
Vous parlez peut-être devant le micro, parce que comme ça continue à être enregistré.
Donc, plusieurs courriers qu'il a envoyés étaient adressés en général au chef d'orchestre.
Oui.
On avait M. Jeun, les noms, M. Steck.
Ce Steck, oui, dont je vous parlais tout à l'heure, et M. Géin, qui a été le directeur de l'orchestre à partir de 1890. Et auparavant, c'était M. Steck.
Et les saisons s'amplifiaient. Oui. Il y avait de plus en plus de travail.
Eh oui, bien sûr, parce qu'il y avait difficile. De plus en plus de gens. Hein, absolument. Oui. Alors là, il écrit au directeur de l'orchestre, j'ai l'impression.
Voilà, là, il écrit au directeur. Là, c'est une. Non, c'est la réponse du directeur de l'orchestre.
Oui.
Suite à une requête de M. Lechner qui disait que le public adorait entendre le xylophone. Ah. Et que lui, il avait des initiatives. Et pour faire plaisir à l'Assemblée, il jouait du xylophone.
Oui, oui.
Donc, il réclamait petits émoluments supplémentaires.
Hein,
des petites.
Oui, oui, oui,
et oui, parce que ça faisait du service en plus.
Il était intéressé, votre aïeul.
Ah, ben,
il demandait beaucoup,
il demandait beaucoup d'augmentation qu'il n'avait pas toujours, hein, quand même. Donc là, c'est M. Lechner-Timbali à notre orchestre, qui veut bien quelquefois faire plaisir au public en jouant du xylophone, me demande s'il pouvait y allouer un cachet supplémentaire. Et il y a écrit que c'est accordé, je crois.
Et voilà.
Voilà, demande de gratification
spéciale. Il suffisait de demander et c'était accordé.
Voilà.
Mais c'est très émouvant tout ça, c'est fantastique. Hein. S'il y a beaucoup de gens qui nous rapportent des documents comme ceci, ça serait fantastique. Alors.
Déjà. Attendez, il y en a d'autres, de lettres.
Oui.
Donc on a une autre lettre.
Parce qu'après, nous avons un document tout à fait extraordinaire qui va certainement vous surprendre.
Donc, ça, autre lettre d'augmentation. Il avait proposé aussi, au cours d'une de ses départs en Allemagne pour se reposer, de pouvoir contacter un facteur de timbales pour renouveler les timbales qui n'étaient pas assez intéressantes. Donc, on a une facture.
D'accord.
Pour
améliorer son matériel.
Voilà, très bien. Oui. Et ensuite, ici, donc, nous sommes... ça, c'est quelque chose qu'on a une révélation, on ne savait pas du tout, et mon papa ne l'a pas... Il a dû le savoir parce que ma sœur se souvenait qu'il en avait parlé de la berceuse. Ouais. Voilà, moi, je ne m'en souvenais pas.
Jules avait un xylophone en bois de voyage pliant.
Oui.
Il le déroulait sur son lit parce qu'il était âgé et il lui jouait des airs dans la berceuse
sur
le xylophone en bois.
Parce que nous en venons justement à ce document extraordinaire que vous nous avez amené. Vous ne nous avez pas dit jusqu'à présent que votre aïeul était également compositeur.
Oui. Hein. Oui.
Donc, il était timbalier. Croupier, vélo, cycliste.
Croupier, là, ça n'a pas abouti.
Voilà, enfin, il faisait plein de choses, mais il était également compositeur. Et il a composé une berceuse pour accompagner la naissance du prince Régnier III.
Voilà.
Hein, lorsque Charlotte de Monaco a accouché. Et cette berceuse, eh ben, nous l'avons. Elle a été enregistrée et vous allez l'entendre. C'est une œuvre vraiment de grande qualité.
Oui.
Vous allez être peut-être un des premiers à entendre cette berceuse parce qu'elle a été extrêmement peu jouée. Elle a été jouée un jour puisqu'elle a été enregistrée.
Pour le centenaire de la naissance de Régnier, il y a eu une conférence de musique par Raphaël Doublier et qui a permis de jouer pour la première fois des œuvres d'artistes monégasques, Jules Lechner, César Scotto et Jean Français.
Jean Français, oui,
voilà.
Qui n'était pas monégasque.
Qui n'était pas monégasque, donc nous avons découvert ce morceau.
Alors vous allez entendre...
On a la partition.
Vous allez entendre cette berceuse, la voici.
Thank you.
remarquable, hein. Quel beau témoignage. Et puis, quelle belle musique. Ça pourrait devenir un tube, hein, vraiment.
Pour la petite histoire, quand nous l'avons entendu pour la première fois à l'Académie de musique, c'était Madame Alonso, Isabelle, qui était au piano. Et à la fin, je lui dis, écoutez, dites-moi franchement, que pensez-vous de l'écriture? Elle m'a dit, c'est très propre. Voilà, elle m'a dit, c'est bien écrit, c'est très propre.
Ah, mais c'est non seulement très propre, mais très inspiré.
Mais au niveau
Gabriel Fauré, c'est de Gabriel Fauré, ça serait tout surpris. Ah oui, écoutez, non, c'est tout à fait. On vous remercie beaucoup, hein, on vous remercie beaucoup.
Merci beaucoup, merci. C'est un plaisir.
Oui. Parce qu'écoutez, vous avez apporté là vraiment des documents extraordinaires. Alors, j'ai fait dimanche dernier un appel aux gens. Enfin, il y a des gens qui m'ont dit, oui, on va vous amener des documents. Oui, on a des arrière-grands-parents. Alors, évidemment, lorsqu'il s'agira de parler de l'époque, de l'entre-deux-guerres, là, nous avons évidemment plein de témoignages. Mais là, vous nous apportez des témoignages d'époque qui est, il y a deux siècles. Hein, c'était la fin du 19e siècle. Vraiment, on vous remercie. Je pense qu'on essaiera d'exploiter à nouveau tout cela parce que ce sont des documents très précieux et puis originaux en plus. Hein, passe à être un personnage, hein, votre. Oui. Ah oui, absolument. Écoutez, le timbal, le vélo, la composition. Et alors, on ne sait pas si Charlotte a entendu cette œuvre. Enfin, si elle, on ne sait pas. Hein. Oui.
Étant donné qu'il a créé la fanfare des carabiniers, donc je pense qu'il a peut-être proposé de la jouer un jour avec la fanfare, je pense.
Là, ici, ça doit être un professeur de l'académie. Oui, lorsque vous m'avez envoyé la partition, j'ai dit, ben, on va la faire jouer, mais vous m'avez envoyé l'enregistrement, puisqu'elle elle a été jouée grâce à Raphaël Doublier, absolument, qui a... Oui. Ah oui. Ah oui, d'accord. Oui. Ah, oui. Ben, c'est très bien. Ben, on pourra. Oui, on pourrait même diffuser d'ailleurs cette copie parce que. Ben, bien sûr. Ben, bien sûr. Il y a plein de merveilles. Bon. Eh ben, écoutez, je vais reprendre le cours de mon récit. On a encore, je ne sais pas, trois quarts d'heure là, pour parler. Alors, je vous avais quitté la fois dernière à la fin de la période de Roméo Accorsi. Roméo Accorsi avait été le second directeur de l'orchestre philharmonique, enfin, qui ne s'appelait pas Orchestre philharmonique de Monte-Carlo à cette époque-là. Le premier avait été Eusèbe Lucas. Hein, je vous avais parlé de ce personnage aussi, qui était à la fois chef d'orchestre et journaliste, hein, qui avait fondé le Journal de Monaco. D'ailleurs, on avait tout à l'heure une photo du Journal de Monaco, qui s'appelait à l'origine l'Éden de Monaco. Eh bien, ce journal avait été fondé par Eusèbe Lucas, qui était à la fois journaliste et le directeur de l'orchestre. Donc, dans les années 75... Dans les années 70, je veux dire au milieu des années 70, il a quitté son poste et il a passé la baguette à Roméo Accorsi, là dont on voit la photo ici, qui était, je vous le rappelle, le neveu de Donizetti. Hein, c'était un personnage quand même important dans l'histoire de la musique de l'époque. Hein, un personnage qui avait son importance dans la capitale française et qui avait été appelé par Charles III à la direction de l'orchestre de Monaco. Et cet orchestre de Monaco qui avait 20 musiciens au début, hein, lorsqu'il a été fondé en 1856, en avait déjà 70 dans les années 1870. Donc il avait énormément prospéré. Et c'est sous l'époque de Roméo Accorsi, je vous le rappelle, qu'eut lieu cet événement architectural considérable dans la principauté que fut la construction de la salle Garnier, dont je vous rappelle qu'à l'origine, c'était une salle de concert, c'était une salle pour l'orchestre, pour que l'orchestre joue à 17h avec les baies ouvertes donnant sur la Méditerranée. Voilà pourquoi Charles Garnier avait reçu l'ordre de faire un bâtiment qui pouvait s'ouvrir, dont les fenêtres pouvaient s'ouvrir sur la Méditerranée. Donc concert à 17h et concert à 21h, comme je vous expliquais tout à l'heure, dans le but de distraire les gens qui allaient jouer au casino. Il n'était pas question de faire une œuvre culturelle, mais une œuvre de distraction pour les gens qui allaient jouer au casino. C'était ça le but premier. Et cette salle de concert est devenue évidemment une salle d'opéra, mais à l'origine, c'était la salle de concert. Et Roméo Accursi, eh bien, dirigea pendant 10 ans cet orchestre. Et puis, il partit au milieu des années 1880. Il fut remplacé par un certain Arthur Steck. Alors, qui était Arthur Steck? On n'a pas beaucoup de renseignements, d'ailleurs, sur lui. C'était quelqu'un que Jules Padeloup avait fait venir. Alors, Jules Padeloup, vous connaissez, les concerts Padeloup à Paris. Hein, il y avait les célèbres concerts Padeloup et les concerts Colonne. Eh bien, Jules Padeloup avait organisé les concerts populaire à Paris, et il était très occupé par cela, et il avait été également appelé à Monaco pour diriger la salle Garnier de Monaco. Hein, ce fut le premier grand directeur de la salle Garnier une fois qu'elle fut construite, et comme il ne pouvait pas être là sans arrêt, eh bien, il avait demandé à Arthur Steck, qui était, j'allais dire, l'un de ses chefs assistants à Paris au concert Padeloup, de venir ici à Monaco. Et à Monaco, eh ben, ma foi, il resta pendant une dizaine d'années, très efficace. Il fut renvoyé à la fin, au bout de 10 ans, dans des conditions un petit peu particulières que je vous narrerai tout à l'heure. Mais il est arrivé tout à fait accueilli à bras ouverts, d'autant qu'il était recommandé par Jules Padeloup. Voilà ce que le journal de Monaco disait de lui. Hein. Il lit comme personne, entend tout, surveille tout jusqu'à la moindre note. Sa sagesse est de bonne aloi, son respect pour le maître qu'il interprète, pour le compositeur qu'il interprète, est un sacerdoce, jamais un oubli, moins encore une fantaisie. Chez lui, sous cette apparence de froideur, la poésie trouve sa place. Voilà. Donc, c'était un chef d'orchestre qui a été vraiment très apprécié, si l'on en croit le journal de Monaco, puis si l'on en croit sa longévité, puisqu'il est resté quand même une dizaine d'années à la tête de l'orchestre. Alors, je me suis amusé à voir quel a été son premier concert. Ben, le premier concert, il le donna le 29 novembre 1885, et voilà quel était le programme. Symphonie de Beethoven, 5e symphonie, pa-pa-pa-pam, hein, la symphonie. Ah ben, ça, c'est une symphonie, j'allais dire, emblématique des inaugurations de concerts. L'Orchestre philharmonique de New York, hein, qui a été créé au son de la 5e symphonie de Beethoven. Donc, l'arrivée d'Arthur Steck se fit au son de la 5e symphonie de Beethoven. Alors, c'était le premier morceau. Ensuite, le Carnaval romain de Berlioz. Et il est marqué sur le programme, première audition. On n'avait jamais entendu. Parce que l'idée d'Arthur Steck était de rompre avec la musique italienne. Roméo Accursi avait fait, il était italien bien entendu, neveu de Donizetti, il avait fait jouer énormément de musique italienne. Et Arthur Steck a dit non, on va changer, on va faire de la musique française, de la musique allemande, puis de la musique contemporaine, hein, des compositeurs qui vivaient à cette époque-là. Donc Carnaval romain de Berlioz, première audition. Ensuite, il y avait la sérénade de Théodore Gouvy, en première audition. On dit alors, c'est un compositeur qu'on a complètement oublié, mais c'est un compositeur qui existait à cette époque-là. Et dès son premier concert, Arthur Steck voulut montrer qu'il faisait de la musique contemporaine, de la musique des compositeurs qui composaient à cette époque-là. Et c'était tout à fait méritoire. Hein. La musique contemporaine, on n'entend plus beaucoup maintenant. Hein. Bon, on en a entendu dimanche dernier avec cette compositrice américaine. Voilà, l'œuvre était intéressante, mais dans les programmes actuels, on n'entend plus pratiquement de la musique contemporaine. Et donc, Arthur Steck voulait jouer de la musique de son époque. Ensuite, quatrième morceau, dans les steppes de l'Asie centrale. Vous connaissez dans les steppes de l'Asie centrale de Burundi, mais première audition à Monaco. À Monaco, il n'avait jamais entendu dans les steppes de l'Asie centrale. Et ensuite, pour terminer, la marche de Tannhäuser de Wagner, qui n'est pas marqué en première audition. Et je me demande si ce n'était quand même pas une première audition, parce que Wagner, enfin dans les programmes que j'ai vus, là, des programmes de Roméo Accursi, on n'avait pas tellement joué de Wagner jusqu'alors à Monaco. Mais voilà, donc 5e symphonie de Beethoven, le Carnaval romain de Berlioz, la sérénade de Gouvy, dans les salles de l'Asie centrale, et la marche de Tannhäuser de Wagner. Tel fut le programme du premier concert d'Arthur Steck le 29 novembre 1885. Alors après, j'ai feuilleté le programme, bien sûr. Et voilà toute une liste de compositeurs qu'on a complètement oubliés. Et c'était un honneur pour Arthur Steck de les programmer. Alors je vous cite des noms, comme ça, Raff, Colomère, Lacombe, Jeuneret, Joncière, Vuidet, Desjoyeaux, Duvernois, Le Neveu, Goldmark, Svendersen, etc. Voilà, tous les compositeurs de cette époque-là qu'on a complètement oubliés, qui ont peut-être composé des musiques intéressantes, mais voilà, l'histoire passe et on n'a plus jamais entendu parler de ces compositeurs-là. Mais c'était un honneur pour Arthur Steck de les programmer et il y avait un public pour les entendre. Et puis, un petit peu plus tard, là, c'était le 29 novembre, donc un mois plus tard, eh bien, il donna une œuvre sur laquelle nous allons un petit peu insister maintenant, qui était l'ouverture de Parsifal de Wagner. En quoi cela était un événement? Eh bien, c'est que Parsifal de Wagner avait été composé pour le théâtre de Bayreuth de Wagner. Et vous savez que Wagner avait eu cette chance inouïe, unique dans l'histoire de la musique, qu'on construise un opéra à sa gloire. C'était Louis II de Bavière, qui était amoureux au sens de Wagner, qui avait dépensé une fortune pour faire construire ce théâtre de Bayreuth, qui existe toujours, bien entendu, et qui abrite toujours les festivals Wagner. Donc, un temple construit à la gloire d'un compositeur. Cela ne s'était jamais vu, cela ne s'est plus vu d'ailleurs par la suite. Et à la fin de sa vie, la dernière œuvre que Wagner a composée, c'était Parsifal, ce célèbre opéra. Et c'est un opéra quasi mystique. Il y a une dimension religieuse presque dans cet opéra. Et Wagner, ce fou mégalomane, mais ce génie absolu, avait imaginé que c'était, j'allais dire, la messe qui célébrerait, qui ferait sa célébration de compositeur. Et il avait dit que cette œuvre ne serait jamais jouée en dehors du théâtre de Bayreuth. Il avait interdit. Et puis, Wagner est mort en 1883. Et en 1885, Arthur Steck fait jouer, alors pas l'opéra entier, mais l'ouverture de Parsifal, ce qui était, j'allais dire, une entorse au vœu de Wagner. Bon, par la suite, on a joué et on continue à jouer Parsifal à travers le monde, mais c'était très audacieux en 1885, 2 ans après la mort de Wagner, de rompre le testament de Wagner. Et à ce concert, alors ce concert nous intéresse à un double intérêt, c'est que à ce concert assistait un personnage pas ordinaire qui était Nietzsche. Il était là, je vous en parlerai tout à l'heure, et je vais vous faire entendre, on va faire une petite bouffée de musique. Je vais vous faire entendre quelques mesures de l'ouverture de Parsifal de Wagner pour vous mettre dans l'ambiance. Thank you. j'interromps, je m'excuse. Hein. Voilà, c'est ainsi commence Parsifal. On sent l'esprit sacré de cette musique, comme ça, cette musique qui va se dérouler longuement, longuement. Vous savez que les opéras de Wagner durent 3 ou 4 heures. Hein. Il y a un critique musical qui était à Bayreuth qui disait, voilà, le spectacle a commencé à 7 heures. Au bout de 2 heures, je regarde ma montre, il était 7 heures et demie. C'est-à-dire l'impression de lenteur, de cette musique, mais fascinante. Hein, lorsqu'on aime Wagner, on est pris, on est envoûté par cette musique qui vous emporte et on ne voit pas le temps passer. Donc Parsifal, eh bien, qui a été découvert ici grâce à Arthur Steck le 24 décembre 1855 avec ce personnage qui était Friedrich Nietzsche dans la salle. Alors la présence de Nietzsche est évidemment quelque chose de remarquable. Parce que, ma foi, ben, c'était un personnage, mais également, il y a toute une dimension historique. Là. Alors, que faisait Nietzsche sur la Côte d'Azur ? Il venait déjà depuis 2 ans à Nice, parce que, ben, il était tombé amoureux du paysage de la Côte d'Azur. C'était une époque où il commençait déjà à être un petit peu déséquilibré, et il avait arrêté ses cours à l'université de Bâle, et ben, il se promenait en fait en Europe, mais il avait trouvé que Nice était un lieu tout à fait agréable. Il avait même dit qu'il aimerait définitivement vivre à Nice. Et il y vint 4 années de suite, hein, en 83, 84, 85, 85, et puis en 87 également. Et c'est à l'occasion d'un de ses séjours qu'il va assister à ce concert parce qu'il avait appris qu'il y avait Parsifal. Justement, c'est ça, c'est Parsifal de Wagner qui l'intéressait. Pourquoi ? Parce qu'il était, il avait été amoureux fou de la musique de Wagner. Lorsqu'il avait découvert dans sa jeunesse la musique de Wagner, il avait trouvé que c'était comme une drogue, comme un opium. Il avait essayé de rencontrer Wagner et il a été à un moment de sa vie extrêmement proche de Wagner. Wagner habitait à ce moment-là à Triebschen, à Lucerne, en Suisse. Et il avait une chambre pour Nietzsche qui allait le voir comme un fils adoptif. Et les relations entre Nietzsche et Wagner ont été extrêmement proches, non seulement entre Nietzsche et Wagner, mais la femme de Wagner, qui était Cosima Liszt, qui était une femme de grande culture. Et il a écrit plusieurs fois qu'il aurait aimé que Cosima Liszt fût sa mère, tellement elle avait de culture, tellement elle était intéressante. Et donc, il y a une espèce de passion filiale qui s'établit entre Nietzsche et Wagner. Et puis, il arrive dans les vies entre père et fils que parfois on se sépare. Et effectivement, à un moment, et ce fut en 1888, que Nietzsche abandonna Wagner. Pourquoi ? Parce qu'il avait pris des positions anti-juives, parce qu'il avait fait monter, il avait fait créer ce théâtre à sa gloire, et Nietzsche trouvait ça absolument insupportable. Et voilà ce qu'il écrit, hein, quand je dis 88, c'est plutôt en 78. C'est à l'été 1876, alors que le premier festival battait son plein, que j'ai en mon fort intérieur pris congé de Wagner. Depuis que Wagner était en Allemagne, il baisser peu à peu à tout ce que je méprise et même à l'antisémitisme. En fait, il était alors grand temps pour moi de me séparer de lui. J'en eus très vite la preuve. Wagner, en apparence au fait du triomphe, en réalité un décadent, miné par le désespoir, s'effondra soudain, éperdu et brisé au pied de la croix des chrétiens. Et là, il fait allusion à Parsifal. Vous voyez, une rupture totale et violente de la part de Nietzsche, qui considérait Wagner comme son père. Et donc, Wagner meurt en 1883, alors que Nietzsche se trouve à Nice. Et là, ce fut quand même un grand chagrin pour lui, finalement. C'est celui qui avait été son père adoptif, même s'il s'était séparé de lui spirituellement, était mort. Et là, il raconte qu'il fut désespéré de cela. Et lorsqu'il découvrit qu'à Monaco, eh bien, on jouait Parsifal, eh bien, il vient écouter, il vient assister à ce concert, et il écrit à un de ses amis, hein, qui était Peter Gast, avec lequel il avait une grande correspondance, « Wagner n'a jamais fait mieux ». Donc il reconnaissait quand même, en sortant de ce concert, que la musique qu'il avait entendue était sublime. Mais pourtant, lorsqu'il était à Nice, et là je fais une parenthèse, il eut l'occasion, parce qu'il habitait à la rue Saint-François de Poel, en face de l'Opéra, il eut l'occasion de découvrir Carmen. Et c'est là que Nietzsche changea d'opinion musicale. Lui qui avait été un wagnérien convaincu, qui avait rompu avec Wagner, ben découvre l'œuvre de Bizet. Et il dit que ben, l'avenir, hein, l'avenir c'est Carmen. Pour lui, hein. Voilà ce qu'il dit, avec l'œuvre de Bizet, qu'il a entendu donc 4 fois à Nice, il est allé 4 fois à la représentation à Nice, avec l'œuvre de Bizet, on prend congé du nord humide, de toutes les brumes de l'idéal wagnérien, déjà l'action nous en délivre, elle emprunte à Mérimée la logique dans la passion, la ligne concise, l'inflexible nécessité, elle possède avant tout la qualité qui est celle des pays chauds, la sécheresse de l'air, la limpidezza, hein, la limpidité. Ici s'exprime une autre sensualité, une autre gaieté. Cette musique est gaie, mais non pas d'une gaieté française ou allemande, sa gaieté est africaine. La fatalité est en elle, la joie y est de courte durée, soudaine, sans rémission. Il faut méditerranéiser la musique. Voilà. Donc, en même temps qu'il venait écouter Parsifal à Monaco, ben, il tombait amoureux de la musique méditerranéenne, de la musique de Carmen. Entre-temps, bien sûr, mais là, ça nous entraînerait ailleurs, Nietzsche finissait d'écrire son œuvre majeure, ainsi par la Zarathoustra. Il allait se promener à Aise. Je ne sais pas si vous avez fait le chemin Nietzsche à Aise, cette escalade ahurissante. On voit qu'il était fou, hein, quand même, hein, parce qu'il aurait pu aller se promener à Saint-Jean-Cap-Ferrat, mais faire cette ascension qui est, lorsqu'on l'a fait pendant les jours d'été, qui est absolument impossible, ben, c'était en fait le mythe du surhomme. Il se dépassait dans cette escalade-là, et il se dépassait dans sa philosophie. Je termine en disant sur les séjours de Nietzsche qu'il finit, il vint pour la dernière fois en 1887 et ce fut un événement considérable. Alors je ne sais pas s'il est revenu au concert, mais ce fut un événement considérable que j'évoque comme ça entre parenthèses dans la vie de notre Côte d'Azur, puisque 1887 ce fut le fameux tremblement de terre. Un tremblement de terre qui partit de San Remo et qui alla jusqu'à Nice et qui, curieusement, a épargné Monaco. Ça, c'est lorsqu'on étudie l'histoire de cette époque-là, ce tremblement de terre qui a fait des dégâts, hein, en Italie, il y a beaucoup de morts, à Nice aussi, eh bien, a épargné Monaco. Je me souviens avoir lu, c'était il y a plusieurs années, le rapport de la femme de Ritz, qui était le patron de l'hôtel de Paris. Alors évidemment, la principauté a tremblé, mais il n'y a pas eu d'effondrement. Alors tous les gens sont affolés. Et je me souviens de la description d'une vieille duchesse qui, dans la précipitation, a eu son collier de perles cassé. Et elle racontait, elle courait après les perles dans l'escalier pour les réparer. Je me souviens aussi qu'il y a eu un prêcheur qui, au milieu du casino, commençait à prêcher les bonnes paroles, enfin des situations tout à fait ahurissantes, et tout le monde qui se précipitait à la gare, bien entendu, pour fuir la principauté, et évidemment, le train ne circulait plus. Mais ce que je veux vous dire, c'est que lors de ce tremblement de terre, Nietzsche se trouvait à Nice. Et à Nice, contrairement à Monaco, il y a eu vraiment des dégâts, il y a eu des morts. Et là, il y a un texte absolument ahurissant de Nietzsche qui s'amuse de la situation. Il trouve ça très drôle. Les gens dans la rue, les gens qui ne rentrent pas chez eux, les maisons qui s'effondrent. Il parle d'un magnifique divertissement. Et alors, même d'une situation carnavalesque, parce qu'il se trouve que c'était pendant la période de carnaval. Alors, Nietzsche était fou, on le sait. Ben, d'ailleurs, 2 ans plus tard, il sombra totalement dans la folie, hein, puisqu'on le retrouva à Turin, en train d'aller embrasser un cheval, vous savez, dont il considérait qu'il était maltraité par son cocher. Et puis là, on l'interna et puis il finit dans un asile. Mais voilà, un personnage quand même, personnage important, avec des belles moustaches, comme celle de votre aïeul, mesdames, tombante, très allemande. Et voilà, ce personnage qui a marqué quand même de sa présence les concerts de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, qui ne s'appelait pas à cette époque-là Orchestre Philharmonique. Eh bien, Artusteck donc continue à programmer de la musique contemporaine de l'époque, hein, essentiellement de la musique française. Et là encore, ma foi, j'ai quelques noms, mais bon, qui ne vous diront peut-être pas grand-chose. Mais c'est quand même intéressant de voir à quel point Artusteck était curieux des musiques de son époque. Nous arrivons. Alors attendez, je vois parce que au moment je vais arrêter quand même. J'essaie de regarder l'heure là maintenant. Il est quelle heure là maintenant? On parle quand même un petit quart d'heure. Voilà. Nous arrivons à une époque, j'allais dire, qui va marquer l'histoire de Monte-Carlo. C'est la mort de Charles III. La mort de Charles III en 1889. Donc, qu'allait-il se passer? Parce que Charles III avait été évidemment le bienfaiteur de la principauté. Il avait fait construire le casino, il avait créé cet orchestre. Mais vous savez, comme toujours, à chaque changement de règne, nous, musiciens, nous demandons, nous, artistes, on demande, mais qu'est-ce qui va devenir de nous, hein ? C'est la question qu'on s'est posée à la mort du prince régné aussi, qui aimait beaucoup la musique. Mais est-ce que... son fils Albert II allait continuer. Alors, il y a la princesse Caroline qui était là pour assurer évidemment la continuité. Mais on peut se poser la question, hein, qu'allait-il advenir donc après Charles III ? Eh bien, après Charles III, c'est Albert Ier qui prit les rênes de la principauté. Albert Ier était un ami des arts également. Et il fut donc l'orchestre continua. Albert Ier était un ami de grands compositeurs comme Gabriel Fauré, comme Saint-Saëns, comme Massenet. Et Albert Ier était marié également à une femme qui aimait la musique, la princesse Alice, qui était... je le dis souvent, la première princesse américaine de Monaco. On dit souvent la princesse Grace, qui est la princesse américaine. Donc, la princesse Alice a été la première princesse américaine de Monaco. Elle aimait, elle aussi, les arts. C'était la deuxième femme d'Albert Ier, hein, puisqu'Albert Ier avait été marié une première fois, 20 ans plus tôt, avec Victoria Hamilton. Et c'est avec Victoria Hamilton qu'il avait eu son fils, le futur Louis II. Mais là, il se passa quelque chose d'assez extraordinaire, dont on parle assez peu. C'est que Albert Ier divorça au bout de 6 mois, hein, au bout de 6 mois, et sa femme lui interdisit de voir son fils. C'est-à-dire que Albert Ier n'a connu son fils qu'à l'âge de 10 ans. Louis II, hein, c'était extrêmement douloureux. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y avait pas de grand rapport très, très affectueux entre Louis II et Albert Ier. Mais c'est vrai qu'Albert Ier n'avait pas eu le droit de voir son fils avant l'âge de 10 ans. Et donc, il se remaria avec Alice Hine, qui était une amie des arts. Donc, l'orchestre était sauvé, la vie artistique de Monaco également. Lorsque Albert Ier n'était pas là, eh bien, c'était la princesse Alice qui s'occupait d'organiser la vie artistique. Et Albert Ier n'était pas là souvent. Hein, puisque, vous savez, il faisait ses expéditions océaniques, il a fait 28 expéditions sur les océans, il a apporté énormément à la science météorologique, hein, et évidemment, ceci est concrétisé par le musée océanographique de Monaco, bien sûr. Mais quand il n'était pas là, Alice s'ennuyait, et Alice... elle fut très proche d'un compositeur important à cette époque-là, dont on a complètement oublié le nom, qui s'appelait Isidore Lara. Ça vous dit rien, Isidore Lara. Ben, dans les programmes, il y a Isidore Lara. Il y a même un opéra d'Isidore Lara qui s'appelait Messaline. Et pourquoi était-il joué ? Eh bien, parce qu'il était l'amant de la princesse. Non, ça justifiait. Et un jour, d'ailleurs, sur le mur du palais princier, il y a eu un tag, une inscription qui dénonçait le fait qu'Isidore Lara était l'amant de la princesse. Et il était marqué « Ici dort Lara », pour prouver que la princesse couchait avec... Ça avait été vite effacé, bien entendu, vous imaginez, ce n'est pas dans le style de Monaco. Et donc, à cette époque-là, eh bien, alors on jouait de l'Isidore Lara, on jouait également des compositeurs un peu plus connus, qu'Édouard Lalot, par exemple, qui était un compositeur contemporain à cette époque-là, Chabrier, je vois la marche héroïque à la mémoire de Jeanne d'Arc, de Théodore Dubois, etc., etc., plein de compositeurs de cette époque-là. Et puis, on découvrit une compositrice, dont je crois que vous allez avoir le... Voilà. Une compositrice dont j'aimerais vous parler, ben peut-être pour finir ce matin, qui était... Pourquoi j'aimerais vous parler de cette compositrice ? Parce que c'est une femme, déjà. Et les femmes compositrices... Enfin, les femmes compositeurs ou compositrices étaient très peu connues à cette époque-là, au XIXe siècle. Et puis, c'est qu'elle a... Elle appartient à l'histoire de la musique de Monaco, puisqu'elle est morte à Monaco, c'est Cécile Chaminade. Ça vous dit quelque chose, Cécile Chaminade ? Eh, pas grand-chose, oui. Donc, on découvrit son ballet qui s'appelait Caliroé. Et voilà, donc c'était encore la musique contemporaine et la musique d'une femme. Et qui était Cécile Chaminade ? Je vais terminer par là. Et je vous en parle donc parce qu'elle appartient à l'histoire de la principauté de Monaco. Vous voyez, alors qu'on ne la connaît plus, alors que je n'ai trouvé aucun enregistrement du ballet Caliroé dont je vous parle, mais je vous ai apporté pour terminer une pièce pour piano, pour que vous entendiez un petit peu quelle était cette compositrice morte à Monaco. Eh bien, cette Cécile Chaminade était née au milieu du XIXe siècle au Vésinet. Elle habitait le Vésinet et c'était important pour elle parce qu'elle avait pour voisin un compositeur qui s'appelait Georges Bizet, hein, l'auteur de Carmen. Ah. Alors, un grand expert en musique qui tomba en admiration devant le talent de cette petite fille qui jouait du piano comme ça dans le salon de ses parents. Et il l'appelait « Mon petit Mozart ». Et donc, il dit aux parents, mais il va falloir lui faire faire des études au Conservatoire de Paris. Le père a dit, pas question, pas question. La musique, ce n'est pas fait pour les femmes. Toujours cette rengaine qu'on a entendue tout au long du XIXe siècle et qui a bridé les compositrices femmes. Parce qu'il y en a eu beaucoup, mais pas jouées ou cachées. Voilà, donc... La musique n'est pas faite pour les femmes. Et quand même, comme il sentait que sa fille était vraiment passionnée par la musique et qu'il était riche, il accepta de faire venir à domicile les professeurs du Conservatoire de Paris que Georges Bizet avait amenés chez elle. Et en particulier, il y avait ce grand pianiste qui s'appelait Félix Lecoupet, qui était vraiment le grand pédagogue du XIXe siècle en piano au conservatoire, d'autres professeurs, et en particulier un certain Savard. Si je vous parle de Savard, c'était le professeur d'harmonie du conservatoire, extrêmement sévère. Cécile Chaminade ne pouvait pas le supporter. Et chaque fois qu'il lui présentait une composition de sa part, une fugue en contrepoint, il reprochait tout. Et un jour, elle lui présenta une fugue. Et Savard corrigea les entrées, les tonalités, les reprises, les contrepoints, etc. Et de sa petite voix, Cécile Chaminade lui dit « Écoutez, maître, vous venez de corriger une fugue de Jean-Sébastien Bach. » Ils ne se sont plus parlé de toute la vie. Et donc, Cécile Chaminade, malgré son père, arriva à donner des concerts et puis elle partit en Amérique. Et là, alors, chose absolument ahurissante, elle devint une star en Amérique. C'est à New York qu'a été donné le ballet Caliroé dont je vous parlais, qui a été repris ici à Monaco par Arthur Steck. Une star en Amérique, à tel point qu'il y avait des clubs chaminades qui se faisaient dans les grandes villes. Et elle tournait, elle allait de ville en ville, on l'accueillait comme une vedette, et voilà, donc... on n'a pas idée de cela. On n'a pas idée. Vous voyez, une femme qui est morte à Monaco, qu'on a complètement oubliée, et sur laquelle les journaux d'Amérique déliraient. Alors évidemment, il y avait aussi les journaux qui étaient bon un petit peu moins chaleureux avec elle. Oui, j'ai ici un journal. Alors, le New York Times. Hein. Mademoiselle Chaminade jouit d'une vogue dans notre pays et sans doute également ailleurs en tant qu'une des seules femmes compositrices ayant atteint une certaine renommée. Elle est devenue une sorte de sainte tutélaire des clubs de musique féminin où sa musique est étudiée avec soin, discutée, jouée, chantée. Oui, alors après, alors elle faisait la musique un petit peu, j'allais dire, vous allez entendre 2 minutes pour terminer, un petit peu, j'allais dire, belle époque, comme ça, un petit peu légère. Alors il y avait les journaux un peu intello, comme celui-ci, là, le Evening Post, qui disait par contre, le concert de Mademoiselle Chaminade a confirmé la conviction que si les femmes peuvent voter un jour, elles n'arriveront jamais à composer quelque chose qui en vaille la peine. Toutes semblent superficielles quand elles écrivent de la musique. Comme quoi tous les goûts sont dans la nature. Et donc, elle composa, elle continua à composer. Elle eut ce succès extraordinaire en Amérique. Et puis arriva la Première Guerre mondiale. Et là, subitement, elle arrêta de composer. Et elle dit que non, la composition n'est pas suffisamment importante. Et elle alla à Londres, où elle dirigea un hôpital pour les blessés de guerre. Et ensuite, elle arrêta sa vie de compositrice. Elle vint à Monaco et c'est là qu'elle mourut. Et bien pour terminer, on va rendre hommage à Cécile Chaminade, au moins dans notre petit groupe, et vous allez entendre ce qu'elle compose. Alors, je n'ai pas trouvé le ballet en question, qui fut sa célébrité, parce que visiblement, il n'est pas enregistré, mais voilà un prélude de Chaminade. Belle musique, hein ? Eh bien, il y a des kilomètres comme ça. Il y a, je ne sais pas, une centaine de pièces pour piano, comme ça, qui ne sont peut-être pas forcément aussi belles que les autres. Mais vraiment, Cécile Chaminade, la compositrice qui a été vraiment une star en Amérique et qui est morte dans l'anonymat à Monaco. Alors ça, nous arrivons donc à la fin de cette séance qui était consacrée plutôt à la direction d'Arthur Steck. Hein. Qu'arriva-t-il à Arthur Steck ? Il arriva que fut engagé à la direction de l'opéra de Monte-Carlo un grand personnage dont on parlera la prochaine fois, hein, évidemment, Raoul Gainsbourg. Arrivé dans des conditions un petit peu particulières. Donc, c'était en 1892. Et avec Raoul Gainsbourg arriva un chef d'orchestre dont nous avons parlé tout à l'heure, qui est Léon Géhin, hein, le chef d'orchestre auquel votre aïeul écrivait. Hein, vous savez, il y a une lettre à Léon Géhin. Et donc, il y eut une rivalité qui s'instaura. Ça existe toujours, hein, deux chefs d'orchestre. Le chef d'orchestre qui dirigeait à l'opéra et le chef d'orchestre, Arthur Steck, qui dirigeait l'orchestre. Et à ce moment-là, eh bien, ils ne s'entendirent pas. Voilà, ils ne s'entendirent pas. Et le prince de Monaco, qui était maintenant donc Albert Ier, dit à Raoul Gainsbourg, écoutez, il faut m'arranger la querelle entre les deux. Et donc, un devait partir. Voilà la lettre que Raoul Gainsbourg reçut. L'administration désire que les artistes réunis sous un seul commandement et ainsi les concerts et les représentations lyriques, hein, sous la direction du même chef. La désignation du chef d'orchestre du théâtre vous appartient. Donc, c'était l'ordre que donnait le prince à Raoul Gainsbourg. Mais nous espérons que vous ne refuserez pas de porter votre choix sur M. Léon Géhin, que vous connaissez comme nous. Donc, il n'avait pas trop de possibilités. Et donc, il choisit Léon Géhin et Arthur Steck fut renvoyé. Voilà, voilà comment ça termine. Ben voilà, on termine notre séance là-dessus. J'espère que, je sais pas, si on continue cette histoire-là, qui est quand même intéressante, on essaiera de ramener un peu plus de monde. Je vais essayer d'intéresser Nice ce matin, de demander s'il y a des gens, et vous pouvez le faire également autour de vous, qui ont des témoignages, mais aucun ne sera aussi précieux que celui que vous avez amené aujourd'hui, qui était vraiment absolument remarquable. Et si j'arrive à avoir un article dans Nice ce matin pour annoncer ça, je proposerai que lors de la séance prochaine, on réentende la berceuse pour montrer justement les témoignages que l'on peut avoir. Merci mes amis, et à une prochaine fois.